Bonjour à tous. Je vous transmets les salutations pour commencer de l'assemblée de Monistrol, où je me trouvais dimanche dernier. On m'avait sollicité pour apporter la prédication. Donc, j'ai pu avoir le plaisir d'échanger, de partager avec cette communauté. Voilà, j'aimerais ce matin partager avec vous un petit itinéraire qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Nous allons lire trois petits passages. À Matthieu, chapitre 20, verset 20. Alors que la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande, il lui dit : Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit : Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Un peu plus loin, verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Or, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent : Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule leur faisait des reproches pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort : Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit : Que voulez-vous que je vous fasse ? Ils lui dirent : Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Et enfin, un troisième petit texte à la suite, c'est du verset 1 au verset 6 du chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète : Dites à la fille de Sion : Voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait donné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant : Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait : Qui est celui-ci ? Les foules répondirent : C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Voilà un passage de l'évangile de Matthieu. J'ai envie de dire un passage de l'évangile de Matthieu qu'on a tendance à séparer dans notre lecture. Il me semble pour ma part que ce passage est un passage à part entière. Nous venons de lire trois passages. La particularité de ces trois passages qui se suivent, c'est que ce sont trois passages qui mettent en scène deux hommes à chaque fois. Même s'il y a une femme, mais en tout cas il y a les deux fils de Zébédée, il y a les deux aveugles et les deux disciples. Trois fois deux. Et ces textes-là font suite à un passage où Jésus annonce sa mort et sa résurrection. On est au verset 17, sur le point de monter à Jérusalem. Jésus prit à part les 12 et leur dit en chemin : Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Il me semble que ces quelques versets, ces deux versets qui précèdent la demande des fils de Zébédée, sont l'introduction de quelque chose qui se met en place. On est sur le chemin, le texte au verset 17 dit « sur le point de monter à Jérusalem », et si on prend le premier verset du chapitre 21, l'entrée à Jérusalem, il dit « lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers ». Les quatre évangiles s'accordent pour raconter ce récit avec quelques variantes, mais on est bien sur cette petite période entre le moment où on se met en route vers Jérusalem et le moment où on y rentre. Un parcours de quelques heures, de quelques jours, en tout cas un parcours très bref, qui montre Jésus en train de rentrer dans la dernière phase de sa marche au milieu des hommes. Trois textes qui se suivent, trois binômes qui vont avoir des attitudes, faire des choix, montrer quelque chose de ce que c'est que la foi, l'incompréhension du mystère du salut, mais aussi la place de l'obéissance dans la vie du disciple. Et la manière dont l'Évangile nous présente ces trois récits, leur agencement, leur juxtaposition, sont là pour nous parler de la pensée de Dieu, nous conduire au-delà d'une narration d'événements qui se suivent, qui seraient sans lien avec les uns avec les autres. Si je me mettais à la place des disciples, je me dirais, écoute, ça fait 3 ans que nous marchons ensemble. Je regarderais le Christ et je me dirais, que de chemin parcouru. Quelle route nous avons fait ensemble. Des moments difficiles, on a mangé la poussière de Galilée. On a été attaqué par les autorités juives. On a eu de l'opposition. Mais quel moment glorieux aussi, nous avons vu des malades guéris, nous avons vu des morts ressuscités. Tout ce que la parole nous annonçait comme étant l'œuvre qu'accomplirait le Messie. Et nous arrivons à Jérusalem. Et je pense que dans la pensée des disciples et des apôtres, se pointait un petit peu ce sentiment, voilà, nous arrivons à Jérusalem. Nous allons entrer à Jérusalem. Sans doute ce Messie nous fera-t-il voir encore de grandes choses. Nous allons enfin voir la gloire du Messie annoncée dans la parole. Nous allons voir l'autorité de Dieu supplanter la puissance des autorités romaines. Nous allons voir, nous espérons. Et alors qu'ils sont en train de s'approcher, de se mettre en route, Jésus parle d'une manière tellement claire. Vous avez entendu ces mots ? Il le dit, il n'y a pas de place à l'interprétation. Que dit-il de ce temps ? Sur le point de monter, il prit à part les 12 et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. » Est-ce qu'il y a une interprétation à avoir de ces paroles ? Est-ce que c'est quelque chose qui est hypothétique ? Est-ce que c'est une parabole ? Non, il dit clairement, « Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. » Ils le condamneront à mort. Ils parlent de lui, ils le savent, ils l'entendent. « Et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Quand je lis ces paroles écrites par l'apôtre Matthieu, je suis étonné que le texte qui suive soit la demande des fils de Zébédée. Le message est clair. Ce que vous pouvez prendre comme l'aboutissement où je vais manifester ma gloire, ma puissance, mon autorité et vaincre l'armée romaine ou la faire dégager de la terre d'Israël, retrouver à ce pays la splendeur du royaume de Salomon. Non, voilà ce qui va se passer. On n'a rien après. Aucune des réactions des disciples. Simplement la demande portée par la mère des fils de Zébédée. Le message du salut est clair aujourd'hui. On a fêté Noël il y a quelques semaines, on va fêter Pâques dans quelques semaines. Le message donné à ce monde est clair, limpide, au même titre que celui que Jésus donne à ses disciples. Et pourtant, on a le sentiment que ça leur passe au-dessus de la tête. Que ce plan du salut, tissé au fil des siècles, annoncé, préparé, les hommes n'en perçoivent pas l'étendue, l'importance. Même ces apôtres qui ont marché avec lui pendant 3 ans, leur disent « Voilà, nous sommes arrivés au bout du voyage !»« D'accord, Seigneur, et on va faire quoi ?»« Écoute, dit une femme, la mère de 2 apôtres, voici, j'ai une demande à faire. » Et Jésus lui pose cette question toute simple. « Que veux-tu ? » Il vient d'annoncer d'une manière très claire le plan de salut qui va trouver son accomplissement. Et elle s'approche. Et on s'aperçoit qu'elle ne s'approche pas simplement en son nom, puisque lorsque Jésus répond, il dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » C'est-à-dire que les fils se cachent derrière la mère, mais ils sont bien présents. On pourrait se dire « Ah oui, c'est la maman, c'est une maman corse. Hein ?» Elle s'occupe de ses petits. Alors peut-être a-t-elle entendu que Jésus allait partir. Oh là là, avant que tu partes, je voudrais avoir des garanties. Hein? Mais dans la réponse de Jésus, Jésus révèle qu'eux aussi sont demandeurs. Demandeurs. Alors qu'est-ce que tu veux? Cette question, elle est simple, mais elle s'adresse à nous aujourd'hui. Jésus est aussi dans cette position de ne pas faire les choses sans notre avis. Moi, je me méfie beaucoup des mouvements ou des personnes qui veulent faire à la place d'eux, de l'autre. Hein, les pasteurs qui voudraient que chaque chrétien fasse comme lui a décidé, emprunte les chemins que lui trouve bons. Hein. J'aime beaucoup la notion de leader. Oh là. Ah, les leaders. Les leaders qui dirigent, qui ont la vision. J'entends tellement de pasteurs qui disent « L'important dans une église, c'est que le pasteur ait la vision et que les autres le suivent. Ouais. » En Allemagne, on appelle ça un Führer, leader. Ça me plaît beaucoup, ça, cette notion-là. Où sont les bergers ? Où sont les bergers ? Que veux-tu ? Ça parle de l'attitude de Christ et de Dieu par rapport à nous. Dieu ne nous fera pas marcher dans des chemins qui ne sont pas ceux que nous formulons, ou du cœur, de l'âme ou de l'esprit. Que veux-tu ? Et on verra que dans le passage suivant, face aux aveugles, il posera la même question. Qu'est-ce que vous voulez ? Et en fait, la question retentit ce matin dans nos vies. Est-ce que vous êtes face à Dieu avec cette même attitude, à savoir dire à Dieu ce que vous voulez. Moi, j'attends que Dieu me dise ce qu'il veut. Ah ouais, je peux attendre longtemps. La pensée de Dieu, on la connaît dans les grandes lignes. J'ai entendu une fois Christine prier, et ça m'est resté en mémoire, ça remonte à quelques années, on disait en réunion de prière. Et elle priait en disant, Seigneur, je suis vraiment tellement heureuse de savoir ce que tu veux pour moi. Et que je puisse rentrer dans ce que tu veux. Elle a dit ça il y a de nombreuses années, ça m'est resté en mémoire. Ouais. Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux, comme les fils de Zébédée, portés par leur mère, ce désir d'être en position privilégiée. Ce que veut Salomé repose sur ses désirs et ceux de ses fils. Vouloir le meilleur sans tenir compte ni des valeurs de Christ, ni de la pensée de Christ, mais à partir de ses valeurs personnelles, ce que j'ai envie. On n'est plus sur l'ordre des envies et de mes désirs personnels que de la recherche de ce que veut Christ pour moi. Ce texte intervient après cette annonce de Christ à ses disciples, de sa mort, de sa résurrection. Et Salomé n'a pas entendu, ou elle n'a pas voulu entendre. Elle est centrée sur ses enfants, ses fils. Elle n'a pas compris que l'œuvre de la croix, c'est le passage obligé pour que des hommes soient justifiés, pardonnés de leurs péchés. Pouvons-nous aussi, dans nos vies, vouloir des choses qui sont en dehors de ce que le salut veut accomplir dans notre vie? Je me rappelle, quand on était au collège biblique, il y a maintenant plus de 40 ans, le nombre de garçons qui venaient là pour être pasteurs. Est-ce qu'ils cherchaient quelle était la volonté de Dieu? Non, ils voulaient être là. On vient se former pour être pasteur. C'était l'objectif. Et malheur à celui qui n'arrivait pas à cet objectif-là. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux une place au soleil, à la droite de Christ, dans une belle position bien visible? Ou bien est-ce que je veux rentrer dans le plan de Dieu pour ma vie? Alléluia. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, dit Matthieu un peu plus loin, ou rapporte Matthieu, vous le recevrez. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Ah bon, Seigneur, tout ce que je demande, chiche. Il y a quelqu'un que je connais qui dit, mais si c'est ça la foi, je demande à Dieu de gagner au loto. Chiche. Ah ouais. Quelle est la volonté de Dieu? Tu ne sais pas, vous ne savez pas ce que vous demandez. Hein? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Et parfois, un peu de cet ordre-là dans la relation que nous avons avec Dieu. Nous ne savons pas ce que nous demandons. Nous ne sommes pas dans la pensée de Dieu. Il y a nécessité à être transformé pour savoir demander. Transformé par le Saint-Esprit. Pour caler nos demandes dans ce qui est le vouloir de Dieu, la pensée de Dieu, le meilleur pour nous et pour l'autre, ou pour les autres. Comment savoir ce qu'il faut demander? C'est une femme qui écrivait dans un livre, c'est parce que les disciples du Seigneur conversèrent avec Jésus et l'entendirent leur parler de ce qu'il avait appris de son Père, qu'ils devinrent plus que des serviteurs, ils devinrent ses amis. Il en est de même pour nous, en nous mettant à son écoute. Nous entrons avec respect et émerveillement dans cet état béni d'amitié avec Dieu. C'est Lynn Payne qui disait ça dans un de ses bouquins, la prière d'écoute. Hein? Il y a des choses qui entravent et polluent notre prière, nos demandes. Ça peut être le vice du sentimentalisme, vous savez. À vouloir toujours réconcilier le bien, le mal. Il n'y a pas de séparation et puis il n'y a pas de condamnation. Je pense à ce pasteur qui intervenait toujours après moi dans une présentation des mouvements et qui disait, vous savez, disait-il aux élèves infirmiers, il n'y a pas d'enfer. L'enfer existe bien sûr, mais il est vide parce que Dieu ne pourrait pas faire du mal à un de ses enfants. Ah, quel sentimentalisme, quelle remise en cause de ce que vient de dire Jésus à ses apôtres. Il faut que je monte à Jérusalem, il faut que je sois humilié, que je sois tué, mais que je ressuscite aussi. Le sentimentalisme. C'est le titre d'un film de Jean-Yann. Tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau. Non, il y a le péché. Et c'est parce qu'il y a le péché qui sépare l'homme de son Dieu que la croix était nécessaire et que l'agneau de Dieu s'est approché et s'est livré lui-même. Qu'est-ce qui peut polluer mes demandes? Savoir demander? La quête de l'expérience, du spectaculaire. Vas-y Seigneur, agis! Fais des miracles! On veut tellement voir des choses, mais est-ce que c'est vraiment parce que c'est la pensée de Dieu? Ou parce qu'on a envie de se faire briller, d'être plus puissant, peut-être même que Christ au milieu du monde. Ça peut être une écoute qui est gnostique, c'est-à-dire qui est rempli de ma sagesse, de mon intelligence. Mais est-ce que ma prière, ma demande est conduite par la pensée de Dieu? Salomé, elle fait partie des trois femmes, vous savez, qui sont allées au matin de la résurrection avec Marie-Madeleine et une autre Marie. Elle fait partie de ce qu'on appelle les myrophores. Vous avez déjà entendu ce mot? Les porteuses de myrrhe, les myrophores. Les trois Maries qui viennent le matin de Pâques. Et c'est de là que viennent notamment les trois Maries des Saintes Maries de la Mer, hein, dans le sud. C'est les trois Maries qui sont un petit peu mises en avant, enfin très, dans ce cas-là. Ça veut dire qu'elle a fait la demande à Jésus et en même temps, quelque temps après, au moment de la crucifixion, au matin de Pâques, elle était là avec la myrrhe. Et elle a été témoin et elle a porté le message de Pâques. C'est-à-dire que cette femme qui est venue pour demander une place privilégiée pour ses fils, cette femme-là a fait ce chemin aussi. Elle a compris ce que Christ a dit alors qu'il se mettait en route pour Jérusalem. Ce que les disciples n'ont pas compris. Est-ce que nous pouvons faire ce chemin? Que veux-tu dans ta vie? Que veux-tu aujourd'hui pour toi, pour ceux qui sont autour de toi, pour l'Église, pour ce monde? Que veux-tu? Et pouvons-nous faire ce chemin pour que notre demande soit épurée, que nous ne demandions pas « Ah, oh, je voudrais être à ta droite et à ta gauche. » Non, non. Est-ce que je peux être dans une attitude de service, porteur d'un message, celui de la résurrection du Christ? Après la demande de la mère et des fils de Zébédée, vous noterez que les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Vous savez quoi? Ça n'a pas changé. La technique de l'adversaire pour diviser l'Église, c'est toujours la quête de pouvoir et l'absence de service et d'humilité. Pour empêcher l'Église de grandir, il n'y a pas d'outil mieux approprié pour l'adversaire que de chercher à diviser, et notamment par la soif du pouvoir et de la gloire. C'est le meilleur moyen pour ralentir le service consistant à annoncer le salut par la mort de Christ et sa résurrection. Les 10 ayant entendu cela, bon, il y en a un, je pense, Judas, il était déjà dans l'idée de se dire « Comment je vais faire pour le livrer ?» On va dire qu'il y en avait 9, en tout cas, qui avaient une colère, ou en tout cas de l'animosité contre les fils de Zébédée. Diviser l'Église, parce que le pouvoir est mon objectif, même sans que je m'en rende compte. Le pouvoir, la domination. Ils furent indignés. Et les versets suivants nous montrent deux aveugles qui sont à Jéricho, sur la route de Jérusalem. Deux aveugles assis au bord du chemin qui entendent Jésus passer et qui crient « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Et la foule les reprend. Et Jésus s'arrête, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Vous voyez, on disait tout à l'heure que la demande, elle doit être épurée, elle doit être dans les plans et la pensée de Dieu. Il y a une demande, « Que veux-tu que je te fasse ?» dit Jésus à Salomé et à ses deux fils. « Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse ?» Et là, à ces deux aveugles, il leur pose la même question, « Que voulez-vous que je vous fasse ? Quels sont vos besoins ?» Jésus a cette relation avec nous. C'est un Seigneur qui n'est pas là pour dominer, pour nous écraser, pour nous conduire. J'ai toujours été un peu étonné par ce verset, vous savez, où il dit « Il les pètera avec un sceptre de fer ». Et je me dis, moi, je ne veux pas avoir quelqu'un qui me dirige avec un sceptre de fer. Hein, je crois que c'est dans Isaïe, non? J'ai un doute tout à coup. Hein, je préfère la houlette et le bâton du psaume 23. Mais quelqu'un qui aura un sceptre. C'est une vision, là aussi, du Seigneur qui vient pour corriger la terre. Mais Jésus, pour l'instant, est dans cette attitude d'humilité, mais de relation qu'il construit avec nous. Allez, qu'est-ce que tu veux que je... De quoi tu as besoin ? Je dois avouer que bien souvent, ma femme a beaucoup plus d'humilité que moi. Bien souvent. Je dis pas tout le temps, parce que comme c'est enregistré, si elle écoute. Moi, il m'arrive d'être entêté dans certaines choses, et mon entêtement me fait retarder le fait de dire à Christ, écoute, j'ai besoin de toi dans ce domaine-là. Alors que ma femme va être beaucoup plus spontanée à s'adresser à Christ. Nous pouvons être avec des nuques raides. Non ? Personne n'est concerné par ça. Il n'y a que moi. D'accord, je vois. Ah, être berger d'une église parfaite, c'est difficile parfois. Hein ? Que veux-tu que je te fasse ? C'est la parole que Christ te dit à toi et à moi. Que veux-tu que je te fasse ? Ici, ces deux hommes qui sont à l'entrée ou la sortie de Jéricho sont là et ils s'écrient. Et je les assimile à plusieurs personnes qui ont entendu parler de Jésus. Entendu. Ils ne l'ont pas vu, ils sont aveugles. La femme victime d'une perte de sang aussi, elle ne l'a pas vu. Elle en a entendu. Elle a juste entendu parler puisqu'elle est totalement exclue, enfermée dans sa maison, elle ne peut pas en sortir. Nombreux sont les exemples dans les évangiles où certains se sont mis en route, non pas parce qu'ils ont vu, mais parce qu'ils ont entendu parler de Christ. Ils ont entendu des témoins dire, est-ce que vous avez entendu, vous, pour votre part, des personnes vous dire ce que Dieu est capable d'accomplir dans votre vie ou dans ma vie ? Nous avons entendu. Est-ce que pour autant, nous avons dit à Christ ce dont nous avons besoin ? Ils entendent Jésus passer et ils l'interpellent. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Tiens, Seigneur, fils de David, quelle drôle d'interpellation. D'abord, il dit « J'ai besoin de toi. » « Aie pitié !» Ça veut dire cela. « Aie pitié, arrête-toi ! Fais preuve de miséricorde ! Tu en es capable, tu as ce désir ! Alors, nous, on est là, Seigneur !» Dans les conventions, vous savez, c'est très intéressant quand il y a des prédicateurs qui sont là. Ça fonctionne même souvent plus dans les prédications, dans les conventions que dans les églises locales. C'est-à-dire, quand on est dans une convention, on y va où on a le sentiment que les personnes y vont pour se saisir de quelque chose. Et parfois, dans l'église locale, on a le sentiment que, oh ben non, là, c'est normal. On verra la prochaine convention. On avait des conventions nationales à l'église apostolique tous les ans. Et j'avais le sentiment qu'il y avait des gens qui étaient dans l'église, mais qui ne demandaient pas et qui ne criaient pas à Dieu en disant « Aie pitié de moi, Seigneur ! J'ai besoin de... » Et qui se disaient « Oui, mais il y a la convention le mois prochain. Donc là, je vais y aller et puis là, je demanderai à Dieu. » Il n'y a plus de convention aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait, Michel ? Dis-moi, donne-moi une solution, je sais pas. « Aie pitié de moi. » Fils de David. Ces deux hommes-là sont sur le bord du chemin. Ils sont sur la route. Ils sont aveugles, donc mendiants. Ils ont perdu de la capacité à être socialement et certainement aussi religieusement, spirituellement. Ils sont exclus, comme certains d'entre nous peuvent se sentir l'être dans leur vie. Je n'ai rien. Je suis sur le bord de la route. Il n'y a pas de bénédiction pour moi. Ou en tout cas, je n'ai pas ce que je souhaiterais recevoir. Mais est-ce que tu le demandes à Dieu ? Est-ce que tu te tournes vers lui en lui disant « Tu es celui qui a toutes les capacités de me bénir, de me faire du bien, là, maintenant. Aie pitié de moi !» Et il crie et dit « Seigneur », c'est-à-dire « Kurios ». Tu es le Seigneur, c'est-à-dire celui qui a tous les pouvoirs. C'est une proclamation de foi. Nous pouvons faire une demande de cette nature-là. C'est autre chose que la demande des fils de Zébédée. Aie pitié de moi, Seigneur, tu es celui qui a tout pouvoir pour toucher mon corps, mon âme, ma vie, guérir mes blessures, apporter ce à quoi mon âme soupire. Alléluia, tu es celui-là, Seigneur. Est-ce qu'on a une relation à Christ de cette nature-là ? C'est-à-dire que nous ne venons pas d'égalité à égalité, nous venons face à celui qui est notre ami, notre frère. par le salut qui nous a acquis, mais qui est aussi Seigneur et qui a toute autorité. Fais-moi du bien, Seigneur. Fais-moi rentrer dans tes promesses. Apporte-moi ce dont j'ai besoin. Aie pitié, fils de David. Tiens, fils de David. Fils de David. C'est étrange qu'il s'adresse à lui comme cela, non? Vous ne trouvez pas? On est dans l'évangile de Matthieu, c'est ça? Comment commence l'évangile de Matthieu, vous savez? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Lorsque Matthieu rédige son évangile, il le rédige en commençant par la généalogie. Ce qui nous semble, pour nous qui n'avons pas une culture hébraïque, complètement étonnant, voire une mauvaise introduction. On pourrait, vous savez, on dit souvent qu'un roman, on accroche dessus sur les 4, 5, 6 premières phrases quand on lit. Bon, en tout cas, ça fonctionne comme ça, mais on le dit souvent quand on ouvre. Alors, c'est soit la cinquième de couverture, hein, ou la quatrième de couverture plutôt, soit l'introduction. Mais là, commencer par une généalogie, c'est le meilleur moyen de perdre le lecteur. Non ? Non ? Moi, je sais que ce n'est pas l'évangile de Matthieu qui m'a le plus touché quand j'ai commencé ma vie chrétienne, quand j'avais une quinzaine d'années. Parce que, par contre, Marc, Luc, avec tous ces détails, Jean, avec son souffle littéraire. Et pourtant, Matthieu dit quelque chose d'essentiel. Il fait le lien parfait entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, entre Malachie et le Nouveau Testament. Il démontre que celui dont il est question ici, c'est quelqu'un qui est véritablement celui qui est promis par Dieu. Fils de David, fils d'Abraham. Étonnant d'ailleurs, cette manière de présenter cette généalogie. Les deux aveugles ont pas... Ils sont aveugles, donc on va les excuser, mais ils auraient dû mettre fils d'Abraham avant de mettre fils de David. L'ordre chronologique, mais pour Israël, le Messie était fils de David, en tout premier lieu. Parce que c'était cette relation-là que Dieu avait avec David pour dire, écoute, voilà, tu seras celui dont la descendance portera celui qui est promis depuis toute éternité, depuis le jardin d'Éden, celui qui réglera la question du péché, celui qui accomplira l'œuvre de réconciliation entre l'homme et Dieu. Voilà, tu seras, toi David, à l'origine de cette venue. Ils savent à qui ils s'adressent, ces deux aveugles sur le bord de chemin. Et même s'ils sont exclus, pauvres, aveugles, ils savent que celui qui est là, c'est celui qui est la promesse de Dieu pour l'humanité et pour eux. Est-ce que nous avons, nous aussi, cette conscience de cette alliance, à la fois avec David, à la fois avec Abraham, le Seigneur des Seigneurs? Quand ils disent « fils de David », ils disent « c'est le Messie ». C'est celui qui est promis. Quand ils disent « fils d'Abraham », ils font référence à celui qui est le père de la foi, certes, mais celui auquel un jour Dieu a demandé « donne-moi ton fils » et qui est monté sur le mont Morija, qui a ligaturé son fils Isaac, qui a levé le couteau, et là Dieu a arrêté son bras. Un bélier était là, et il a pu sacrifier le bélier à la place de son fils. Quand les deux aveugles font cette proclamation, fils d'Abraham, Jésus est en train de monter vers Jérusalem. Le Père accompagne le Fils pour qu'il aille sur la croix, comme Abraham a accompagné son fils et son fils a accompagné Abraham pour aller jusqu'à l'autel. Sauf que dans ce cas-là, Dieu n'arrêtera pas, le Père n'arrêtera pas le bras des hommes pour empêcher le sacrifice de Christ. Aie pitié de nous, fils de David et fils d'Abraham. Est-ce que nous avons conscience que celui auquel nous nous adressons, c'est celui qui est le Messie promis, qui est l'incarnation des promesses de Dieu et qui est aussi celui qui, comme Abraham, le Père qui a donné son Fils, mais qui est allé jusqu'au bout, aie pitié de nous. Que voulez-vous que je vous fasse ? À nouveau, c'est vous qui allez me dire quels sont vos besoins. Certainement qu'il y a des gens dans la vie au quotidien qui vous posent cette question. T'as besoin de quelque chose ? Et qu'est-ce qu'on répond en général ? Non, non, merci, tout va bien. Puis à l'intérieur de nous, il y a une petite voix qui dit, mais si, tu sais bien que tu aurais besoin, tu aurais pu aider, ou tu pourrais être aidé, tu as besoin de quelque chose. Moi, je suis le premier, en tout cas, à dire, à utiliser toujours. Quand les personnes me voient au travail, elles me serrent la main, elles me disent, ça va bien ? Je dis, bah oui, oui, oui. En fait, ça va pas du tout, à l'intérieur, j'ai des soucis, voilà, ça va bien. Et parfois, on se conduit de la même manière avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Dit Jésus en te regardant. Ça va, Seigneur, c'est bon, pour moi, tout est bon. Ah, bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? C'est pas le Seigneur qui va nous contraindre à rentrer dans une relation de dépendance vis-à-vis de lui. Il aspire, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, à ce que nous soyons véritablement transparents devant lui en faisant preuve de beaucoup d'humilité. Et en disant, écoute, voilà Seigneur, tel que je suis, et quels sont mes besoins. On sera étonné lorsque nous serons face au Seigneur, quand nous serons aussi jugés de ce que nous avons vécu, on sera certainement étonné de tout ce que nous n'avons pas pris, des promesses que Dieu pouvait accomplir dans notre vie. Véritablement. Et pourquoi tu n'as pas cela ? Ben parce que je ne l'ai pas demandé. Quand j'étais au collège biblique, on m'a dit, tu vas faire un stage pastoral au Havre, etc. Et moi, dans ma prière avant de quitter, je savais que j'allais aller au Havre, que j'aurais à assumer des activités, des réunions, m'occuper des jeunes, des juniors, du groupe de jeunes, etc. Et j'ai dit, Seigneur, ça va être compliqué de faire tout ça, il me faut un logement, donc est-ce que tu peux pourvoir ? Et le Seigneur a pourvu. L'Église m'a fourni un logement. Je dis, ben après, ce serait bien d'avoir une voiture, au moins pour véhiculer les jeunes, pour les réunions, etc. Puis aller, le Havre, c'est grand. Et Dieu m'a donné une voiture. Elle est tombée du ciel, mais vraiment du ciel. C'est pas une deux chevaux. J'étais content d'avoir une deux chevaux. Et je l'ai eue pendant plusieurs années. Et c'est venu. Mais si on ne demande pas, c'est Seigneur, hein ? Oui, oh, peut-être, ça... Ouais, oui, ce serait bien. Enfin, merci, amen. Que veux-tu que je te fasse ? Et ils dirent que nos yeux s'ouvrent. Alors, ce sont des aveugles qui sont aveugles physiquement. J'ai envie de dire, est-ce que nous n'avons pas aussi la même prière à faire dans notre vie ? Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Nous avons tellement besoin de voir toujours plus qui tu es. Ce que tu désires pour moi, mais aussi de voir non seulement toi, mon Dieu, mais me voir aussi laisser ton Esprit Saint me montrer ce que je suis et ce dont j'ai besoin. On est beaucoup tournés vers le Seigneur, mais le Seigneur veut aussi que nous soyons tournés vers nous. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Rien, Seigneur. Pleine forme. Pleine forme. Dis-moi ce que je dois faire. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Il y a une véritable démarche à faire là aussi, d'humilité en disant, Seigneur, je ne suis pas parfait, il y a des combats que je dois mener dans ma vie, il y a du péché qui doit être enlevé, mais il y a aussi des dons et des capacités que tu as déposées en moi et que je ne vois pas encore. Seigneur, montre-moi cela. Ouvre mes yeux. Est-ce qu'on peut... Cette semaine, peut-être faire cette prière devant le Seigneur dans notre chambre. Simplement dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Une fois que ce récit est passé, on est toujours en direction de Jérusalem. Christ avance, marche et il s'approche de Jérusalem. Et lorsqu'ils arrivent à proximité de Bethphagée, j'aime beaucoup cette précision. vers la montagne des Oliviers. Quel lieu, quel endroit. On s'approche. On sent, je dirais, connaissant l'histoire de Christ, que le dénouement approche. Eh bien, il dit, allez au village qui est devant vous. Il dit à deux disciples, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Sur le point de monter à Jérusalem, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, on est vraiment dans ce mouvement, dans ce récit, cette péricope qui parle de ce chemin qui s'ouvre sur la dernière étape de Christ jusqu'à l'aboutissement de son œuvre de salut. La fin est proche, il le sait. Il a commencé à préparer ses disciples. Le mont des Oliviers est proche, il est presque visible. Déjà se profile l'ultime nuit. La dernière. Les trois évangiles synoptiques et l'évangile de Jean en parlent. Et il est dit, dans l'évangile de Jean, il dit, Jésus trouva un ânon. Il ne s'attarde pas, lui. Il dit, voilà, il a trouvé un ânon, il est monté dessus et est rentré. Mais Matthieu fait autre chose. Il détaille. Il dit, voilà, dans cette histoire, Jésus a envoyé deux disciples, il leur a dit, vous trouverez une ânesse et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les moi. Et alors, si vous avez lu, il y a presque un récit abracadabrantesque, comme disait un ancien président, c'est que les disciples voient arriver l'ânesse et l'ânon, mettent les vêtements sur les deux, et Jésus monte sur les deux, et l'ânesse et l'ânon. Je dis, tiens, c'est étrange comme récit. Les autres disent, non, il est monté sur l'ânesse. Hein. Et puis souvent, on voit dans l'iconographie l'ânon à côté. Mais là, dans l'évangile de Matthieu, il est dit qu'il a vu, ils lui ont amené l'ânon et l'ânesse, et puis il est monté sur les deux, avec les vêtements des disciples. En fait, dans la pensée de Matthieu, il voulait absolument que son texte colle avec le texte de Zacharie, qui parle de Jérusalem. Jérusalem qui est au centre de l'attention de Christ. Hein? Jérusalem, où il est dit, voilà, et toi, Jésus, Dieu pleure sur Jérusalem. Alors j'avais mis mon verset, mais du coup, je ne l'ai plus retrouvé. Mais bon, ce n'est pas grave. Et Matthieu veut tellement coller au texte de Zacharie qu'il fait intervenir l'ânon et l'ânesse. Les autres, non, ils sont cohérents. Mais c'est une manière pour Matthieu de dire, voilà les promesses que Dieu a données par le prophète Zacharie concernant Israël et Jérusalem sont des promesses qui s'accomplissent en Christ. Et lorsque les deux disciples trouvent les choses comme elles sont, ils allèrent et firent ce que Jésus avait demandé. Je trouve que là, on est parti de deux disciples qui disent, mets-nous une place à droite et à gauche. Et dans le troisième récit, c'est deux disciples qui font ce que Dieu leur demande, ce que Christ leur demande. Et ils trouvèrent les choses comme il était. C'est Zacharie 9:9. Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur le petit d'une ânesse ou un ânon tout jeune. Voilà, il est monté sur l'un ou l'autre, peu importe. Mais c'est une preuve d'humilité. Les disciples font ce qu'il est ordonné. Est-ce que nous pouvons aussi être dans cette attitude dans notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à faire ce que Jésus nous ordonne, afin de trouver les choses comme lui, il les voit et les perçoit. Hein? Dans le texte de l'évangile de Matthieu, il y a juste une partie de Zacharie qui est enlevée, c'est « il est juste et victorieux ». Certainement parce que pour Matthieu, ce qui est important, comme pour les autres évangélistes, c'est d'insister sur le côté humble de la rentrée de Christ dans Jérusalem. Il ne vient pas comme un roi. Or, dans Zacharie, il est dit, il pousse des cris d'acclamation, fille de Jérusalem, et on va voir Jérusalem acclamer l'entrée de Jésus, avec des rameaux, avec des vêtements, etc. Il est juste et victorieux, dit Zacharie, parce qu'il a cette perception aussi du Christ ou du Messie victorieux. Matthieu insiste sur le côté, non pas victorieux, mais humble, du Christ qui est là et qui rentre dans Jérusalem pour accomplir son œuvre. J'ai envie de dire que nous avons là une représentation de l'humilité de Christ, qui est cette dimension de Christ aujourd'hui encore. Même s'il est victorieux et assis à la droite du Père, il est toujours là, se présentant à tous les hommes comme celui qui vient en toute humilité, comme le Fils de l'homme, pour dire « Je suis venu pour toi, je viens pour toi ». Il est encore aujourd'hui le Christ humble qui dit « Je suis né dans une mangeoire, dans une crèche. Je suis aussi celui qui rentre sur un ânon en toute humilité ». Et vous savez quoi, ce texte-là ne peut pas se lire, j'ai envie de dire, sans penser au retour de Christ dans Apocalypse 6 et Apocalypse 19. Jean dit ceci, « Et je regardais et je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et il lui fut donné une couronne, et il sortit victorieux et afin de vaincre. » Et au chapitre 19, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Il juge et combat avec justice. Zacharie dira du roi à venir, il est juste et victorieux. On peut quand même penser que ces deux textes de Zacharie et de l'Apocalypse parlent du Christ qui revient en gloire. Il entre à Jérusalem assis sur un ânon, dans l'humilité pour dire aux hommes, voilà ce que j'accepte d'être pour que vous trouviez le salut. Je me suis abaissé pour que vous saisissiez le salut qui vous est donné. Mais je reviens, et je reviendrai en puissance et en gloire. Et ce ne sera plus sur un ânon, ce sera sur un cheval blanc, avec un arc qui représente la puissance et l'autorité, et dans l'Apocalypse, il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Ces trois récits de l'évangile de Matthieu nous parlent là aussi de cet aller vers Jérusalem, vers Golgotha. Et avec ces deux questions qui se retentissent dans deux des textes, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Christ est à la fois aujourd'hui celui qui nous parle de comment il est venu en toute humilité, mais qui règne déjà dans le ciel, assis à la droite du Père, et qui nous pose cette question aussi en nous disant, je suis à la fois celui qui a accompli cette œuvre et à la fois celui qui a déjà toute autorité. Que veux-tu que je te fasse ? Que nous puissions lire cette parole et que nous puissions aussi, dans notre vie, dans notre engagement, dans notre marche avec Dieu, nous poser cette question, qu'est-ce que je réponds à celui qui me dit « Que veux-tu que je te fasse ?»